Yinka et Seagraves, est-ce que les cloches à Séville ont sonné déjà ou pas?
Pas encore, mais elles vont, elles, je pense qu'elles vont sonner très bientôt.
Parce que vous nous avez prévenu qu'à 20h, il y aurait les grandes, les cloches. Vous êtes, pour poser le décor de l'émission, Yinka, vous êtes à Séville. Vous êtes où exactement?
Je suis plutôt au centre de la vieille ville, donc juste en face d'une église qui s'appelle San Vicente. En fait, c'est ça la rue aussi où j'habite. Et puis, pas loin du Rio Guadalquivir, une rivière très importante. Oui, dans mon imaginaire, elle est importante aussi, cette rivière. Disons que c'est où beaucoup des gens de l'Amérique latine, de l'Afrique, où ils sont arrivés, beaucoup des richesses, disons, de ce qu'on appelait le Nouveau Monde, sont arrivées en Europe d'ici, quoi. Donc c'est un endroit assez important, disons.
Et est-ce que vous pouvez danser en ce moment à Séville?
Ça dépend. Danser dans mon studio, oui. Au fait, dans les différentes communautés de... Ah, voilà. Vous les écoutez?
On les entend.
Les cloches? Elles sont là, les cloches. Mais disons que, oui, donc les différentes communautés, elles choisissent un peu, elles ont des différentes règles. Donc la plupart des théâtres, ils sont ouverts, mais il y en a beaucoup qui ont changé, disons, leurs horaires. Donc parce qu'il y a un curfew, toque de queda. Ici à Séville, il est à 10h du soir, mais tout ce qui n'est pas essentiel doit arrêter avant 6h du soir. Donc, mais par exemple, je suis dans un spectacle où on va pouvoir travailler dans d'autres villes.
Dorothée Mugnaneza, vous n'êtes pas près des cloches à Séville. Où vous êtes?
Moi, je me trouve à présent à Marseille, dans ma maison, dans la cuisine même, où je regarde un peu les objets qui m'entourent, des photos familiales, dont une que j'aime tout particulièrement, la photographie de ma grand-mère maternelle. Une des rares photos que j'ai d'elle, toute jeune, et je vois à quel point elle ressemble, ma mère lui ressemble, et donc moi aussi. Et j'ai aussi un tableau sculpté en bois qui nous vient du Rwanda, et des objets d'art de mes enfants. Donc voilà, je suis dans ma cuisine en ce moment.
Alors on est à Séville, à Marseille, et on l'espère, on croise les doigts, on sera à Paris, où on attend la chorégraphe Germaine Acconi qui va sûrement arriver dans notre studio en ligne. On peut commencer. Il est 20h04 sur France Culture et ne retournons pas en arrière. C'est une des paroles du spectacle de Dorothée Mugnaneza. Il y a aussi « Nous sommes vivantes », répétée plusieurs fois. Dans son spectacle « Maï », elle rassemble les êtres dispersés. Des femmes dont les origines sont en Afrique, que la vie a emmenées ailleurs. Elles sont 6 sur scène, mais il y a une multitude de corps et de récits qui les accompagnent, à qui on pense, qui lèvent la tête droite et qui avancent. Ça s'appelle Maï parce que chaque histoire est faite de plusieurs fils. Dorothée Mugnaneza célèbre avec ses amis, artistes, poètes, danseuses, des voix qu'on n'entend pas, des récits mis en sourdine. Et chacune semble dire « je viens de loin ». Mais quand on vient de loin, on vient d'où? Par rapport à quoi? Qui décide du centre? Du point d'arrivée? De la périphérie? Germaine Acconi a 76 ans, c'est une figure de la danse contemporaine. Elle a fait valser les centres, les périphéries, et elle nous conseille de danser comme un arbre, et surtout comme celui au bois fort et léger qui sait se protéger avec des piquants. Voilà comme il faudrait être. Ses élèves de l'école des sables à Toubab Diallo au Sénégal disent « elle m'a appris à ne pas baisser la tête ». Son identité à elle, c'est la danse. Maurice Béjart l'appelait « ma fille noire ». À 70 ans, Germaine Acconi se posait la question « qui suis-je dans son solo à un endroit du début ?» Pour les autres, depuis longtemps, elle est celle qui a ouvert la voie. Germaine Acconi, Dorothée Mugnaneza ou Yinka et Seagraves, qui sont avec nous ce soir, ont réajusté les distances, multiplié les centres. Alors on ne vient plus de loin, on vient d'ailleurs. Et si leurs spectacles sont faits de mémoire et d'histoire, leurs danses ne sont faites que du futur. Chacune est dans son décor ce soir, puisque je suis seule en studio et que mes invités sont chez elles. On commencera à Paris, c'est là que la chorégraphe Germaine Acconi a posé ses valises pour le week-end. Elle est l'ambassadrice de la saison solidaire du Théâtre de la Ville, qui propose un week-end avec Germaine Acconi. Tout est retransmis en direct depuis l'espace Cardin, avec un spectacle, un documentaire, une masterclass. On partira ensuite chez la chorégraphe, auteure, chanteuse britannique d'origine rwandaise, Dorothée Munyaneza. Son spectacle Maï aurait dû avoir lieu au Festival d'automne. Ce sera au Centre Pompidou en avril et puis une tournée commence en France, à Mélan, Brest, Château-Vallon, Saint-Étienne. Cela fait partie de la saison Africa 2020 qui s'ouvre en ce moment. Nous serons donc aussi chez Yinka Essie-Graves qui fait partie des artistes femmes du spectacle. Comme la musique ne peut pas être live en studio, la chanteuse Alani a enregistré spécialement pour nous, chez elle, un des chants de Noël qu'elle vient de reprendre dans son EP Christmas Volume 1. On recevra aussi un message et des nouvelles du théâtre à Los Angeles. C'est Tous en scène, en direct, sur France Culture. On commence avec Germaine Acconi. C'est un extrait du documentaire Iyatunde de Laure Maléco. On commence avec les arbres.
Vous allez voir un fromager, le capoquet, c'est le symbole de ma technique. C'est un bois qui est fort et léger en même temps. Et il a des piquants et puis en haut il en a moins, c'est pour se protéger des gens. Donc il faut être fort, léger et se protéger avec les piquants. Faites le bras rond comme si vous embrassiez le tronc du baobab. Étoiles, c'est là où il y a la sexualité, n'est-ce pas? Où on fait les enfants, on fait plein de choses avec ça. Oui, papa, papa. Après ça, on peut partir de là et transcender, voyez? Transcender la sexualité, mais ça, c'est pas maintenant. Transcendez ça et vous essayez que ça aille en haut.
Germaine Acconi, vous avez souvent parlé de l'importance de l'observation de la nature. Est-ce qu'en ce moment, vous arrivez à être comme un bois fort et léger et à vous protéger avec des piquants?
Oui. À Toubab Jalao, où l'école des sables se trouve, il n'y a absolument pas de Covid ou corona, je préfère dire corona. Et donc, nous sommes au bord de la mer, en face d'une lagune et de forêts de baobab. Donc, tous les matins, que le bon Dieu fait que je puisse me lever avec Helmut, nous marchons pendant une heure dans l'eau de mer, nous sommes devant l'océan et nous prions pour ceux que nous aimons et même ceux que nous n'aimons pas, parce que, tout le monde ne m'aime pas, je n'aime pas tout le monde, mais c'est comme ça. Mais je prie pour que le monde aille mieux et que nous soyons connectés. Parce que quand je mets les pieds dans l'eau, mais il n'y a pas de frontière dans la mer, aucune frontière. Comme à l'école des sables, il n'y a pas de frontière entre les danses, il n'y a pas de frontière entre les hommes. Donc je me sens tout à fait connectée avec la nature. Et voilà, nous respirons, nous sommes très heureux au Sénégal et particulièrement à l'école des sables.
Ça fait du bien, Germaine Acconi, de commencer par cette image. Vous parlez dans le documentaire donc Iyatunde de Laure Maléco, justement de cette importance des paysages. Vous parlez aux élèves qui sont là en leur disant d'observer ces arbres et de, oui, en tout cas d'avoir toutes ces sensations à l'intérieur, parce que c'est ça qui va aider
à danser, à improviser. C'est quoi les sensations qui vous habitent en ce moment et qui vous ont accompagné pour danser cet après-midi, par exemple, en direct de l'Espace Cardin au Théâtre de la Ville?
Donc, quand nous avons reçu l'invitation de venir au Théâtre de la Ville, on nous a demandé si vous n'avez pas peur du Covid. On a dit, même pas peur. Et Helmut et moi, nous avons passé le test, comme il faut faire, parce qu'au Sénégal, pour rentrer ou pour sortir, il faut passer le test. On est très disciplinés. Donc, on pouvait voyager. Et on était habités par cette force, cette volonté de vaincre de ne pas ignorer, ça existe, tous les gestes barrières, mais avec cette volonté, et aussi d'être immunisé, n'est-ce pas? Et quand nous sommes arrivés, bon, j'avais vraiment le trac de danser devant des caméras, mais il y avait les techniciens étaient là, très chaleureux, toute l'équipe du théâtre de la ville, je me sentais chez moi. Et ça a été formidable, cette sensation d'être chez soi et de danser pour soi. Mais quand on danse pour soi, pour le plaisir de danser pour soi, on donne du plaisir à l'autre. Et là, je pense que c'est passé. On a reçu beaucoup d'émotions. Les gens nous ont félicités. Et je sais que j'étais en connexion avec le monde. Et j'étais très heureuse de cette sensation-là, même en ne voyant pas le public. Je les ai sentis à travers les caméras et à travers les personnes qui étaient là et qui me soutenaient. Puisque après, ben, j'ai reçu mon passeport d'ambassadrice du Théâtre de la Ville avec de très jolis poèmes. Et je sais maintenant que je peux aller encore partout dans le monde, pas de visa, et je passe.
Parce que qu'est-ce que ça signifie, Germaine Aconi, pour vous d'être ambassadrice de la saison solidaire cette année du Théâtre de la Ville à Paris?
Mais c'est très important avec Corona, ce virus qui est là et pour qui est invisible, qui bon, nous avons la chance au Sénégal de n'avoir pas, et dans mon village il n'y a pas de cas, mais je suis solidaire avec ceux qui sont infectés et avec cette nature. Vous savez, dans chacun de nous, nous avons un petit cosmos. La poitrine, c'est le soleil, les fesses, demi-lune, la lune, et le pubis, les étoiles. Et nous avons des arbres. Vous savez, c'est l'imaginaire. J'ai visité l'Espace Cardin, tous ces arbres qui sont là, magnifiques. Il faut avoir de l'imaginaire. Même quand on est dans sa cuisine, on peut imaginer qu'on est un fromager, qu'on est un nénuphar. Et pendant mon cours masterclass, je vais essayer d'être en connexion avec la nature, avec tous ceux qui vont nous regarder. Eh bien, nous serons en connexion ensemble pour danser les arbres, pour danser la nature, pour danser pour que ce virus s'en aille.
Et ça, c'est à 16h demain, la masterclass. On peut vous rejoindre, Germaine Aconi. Dorothée Mounianeza, vous êtes dans votre cuisine ce soir à Marseille. Mmh. Est-ce que y a des paysages ou justement des sensations qui vous accompagnent et qui vous aident en ce moment à danser sur scène?
C'est-à-dire que la scène en ce moment n'est pas très présente, hein, parce que notre tournée a été suspendue ou reportée. Par contre, quand je suis sur scène, j'essaye de porter avec moi une multitude d'individus, une multitude d'histoires qui m'habitent ou qui m'inspirent. Et comme je suis entourée en plus en ce moment sur maille par 5 autres femmes magnifiques, je me dis portons nos histoires, les histoires de nos ancêtres, les histoires des femmes qui nous inspirent, vivantes ou mortes, dispersées partout dans le monde, et de pouvoir inspirer d'autres et parler de cette humanité. Donc je pense que c'est comment les récits peuvent être comme une seconde peau ou nous insuffler une énergie qui nous meut et qui nous donne de la force et de l'élan. Je pense que vraiment c'est les récits qui pour moi continuent à être mon fil conducteur.
Germaine Aconi, en parlant de récits. Aujourd'hui, vous avez dansé à un endroit du début, qui est une création de 2015, un solo autobiographique créé avec le metteur en scène Michael Serre, où vous parlez beaucoup de la force des femmes. Justement, vous parlez de votre grand-mère. Qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez hérité de votre grand-mère prêtresse dont vous parlez dans le spectacle?
Ben, en fait, je ne l'ai pas connue, hein, mais quand je suis née, les gens ont trouvé que j'avais ces traits physiques et peut-être spirituels, et ils m'ont dit « Yatunde, la mère est revenue ». De toute façon, même ne l'ayant pas connue, j'ai senti beaucoup de force en elle. Et justement, en créant ma technique, quelquefois j'étais inspirée, je me disais « mais d'où vient cette inspiration ?» Et je suis sûre que c'est ma grand-mère qui me dictait les choses, qui me conseillait. Et je sais que je suis en connexion chaque jour avec elle, avec mes ancêtres. Quand je bois, je leur donne à boire. Quand je mange... je suis en perpétuelle connexion avec eux. La mort et la vie s'en mêlent et tout, rien n'est séparé. Et voilà, donc je me sens parfaitement en connexion avec mes ancêtres.
Et qu'est-ce qui vous donnait envie, il y a 5 ans, Germaine Aconi, de vous poser cette question « Qui suis-je ?» très concrètement, de dire « Je m'appelle Germaine Marie Pentecôte Salimata Aconi » au début du spectacle, et de... parler de votre père, de votre grand-mère, de votre parcours de femme, de vos enfants, de vos départs. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous avez 70 ans, vous donne l'envie de faire ce spectacle?
Mais parce que, bon, je suis danseuse, c'est mon identité, mais je trouvais aussi que je pouvais me servir de ma voix et d'autres techniques, de la technologie pour décrire... qui je suis, ce que je suis et ce que j'ai envie de faire. Et j'aime beaucoup dialoguer avec la jeunesse ou les... Bon, je trouve que les jeunes... Avant, c'était moi qui conseillais à mes enfants les livres, les films à voir. Maintenant, ce sont mes enfants qui me disent « Maman, tu as lu tel livre, tu as vu tel film ?» Et je trouve que c'est vraiment très, très, très intéressant. Et donc, mon père avait écrit ce livre qui n'a pas été édité. Et quand j'ai rencontré Michael Serre, j'ai beaucoup aimé son travail et il m'a aidé à accoucher de moi-même. Il a même lu, quand il a lu, il y a des passages que moi j'avais zappés et qu'il m'a aidé à mettre le doigt dessus. Et surtout, ce qui m'a intéressé, pendant qu'on était en résidence, il m'a lu un texte. Et je dis, mais ce texte-là, c'est ma vie, c'est la vie des femmes de Toubab Djalaou. Il me dit, c'est m'aider. Alors, je dis, ça ne change pas, c'est m'aider. C'est mon histoire, c'est notre histoire. Donc, le passé, le présent, le futur se mêlent. Et les femmes, de toute façon, ça va continuer. Hein. Il faut continuer à se battre, comme on va continuer à se battre, comme les noirs, les nègres, on va continuer à se battre. Et ce n'est jamais gagné, ce sera peut-être jamais gagné, mais il ne faut pas qu'on baisse les bras.
En tout cas, Germaine Aconi, j'ai la sensation que vous avez donné beaucoup d'armes à beaucoup de gens, à beaucoup de jeunes gens, pour justement avancer. Il y a aussi un des jeunes, je crois que c'est dans le documentaire, à l'école des Sables, à Toubab Diallo, qui dit que la technique Aconi, votre technique, ça l'a aidé à se dire « je ne baisse pas la tête, je suis moi-même, j'apprécie mon identité, je m'exprime avec mon mouvement à moi ». Et puis, en 1980, vous avez sorti ce livre, vous avez écrit ce livre, Danse africaine, et la chorégraphe Robin Orlin a dit, ce livre, c'était une arme immédiate avec laquelle travailler, parce qu'avant, on n'avait rien à quoi s'accrocher, aussi, quand on avait envie d'exister en tant que chorégraphe, danseuse. Donc, est-ce que vous avez l'impression d'avoir donné des armes, justement, pour se battre, pour avancer à toute une génération, en fait?
Mais si les autres le disent, moi je peux pas le dire. Mais si les autres le disent, eh ben j'en suis très fière et j'en suis très heureuse, parce que quelquefois je me dis bon, est-ce que je danse bien, est-ce que je suis bien, et je dis bon, Helmut me trouve bien, avant Maurice Béjart me trouve bien, mes enfants me trouvent bien, ou à travers le miroir de leurs yeux, je retrouve mes racines, parce que je suis jamais sûre de moi, jamais. Je me pose toujours des questions et j'essaye d'avancer, de ne pas toujours faire la même chose. Mais bon, j'ai toujours des gens autour de moi qui me poussent et je suis très heureuse d'être avec Helmut qui ne me fait pas de cadeaux. Il n'est pas aveugle.
Votre mari.
Ne rend pas aveugle. Quelquefois, je trouve dommage. Mais bon, il est très, voilà, si c'est bien, il le dit, c'est pas bien, il le dit. Donc, je pense que je suis bien accompagnée par mon mari, par mes enfants et par mes amis que j'aime et qui m'aiment.
Mais est-ce que c'est ça que vous avez envie de faire, transmettre des armes pour que les autres puissent justement se battre et faire leur place?
Eh ben oui. C'est ce que j'ai envie de transmettre, comme moi je continue à le faire. Et je dis bonjour à Dorothée, parce que nous allons nous retrouver. Moi je serai la mère, elle sera le fils d'un futur film qui va se faire. Inch'Allah, et ça va se faire. Et Dieu le voudra.
Dorothée Mounianeza, vous allez retrouver alors Germaine Aconi sur un tournage. Est-ce que vous, c'est quoi vos armes à vous? Quelles armes en termes de figures, de livres, ou quelles armes vous avez pu recevoir, attraper pour commencer à travailler, à créer vos propres spectacles, ceux qui vous ont donné le courage de faire ça?
Oh, il y en a beaucoup, mais je commencerai tout d'abord par nommer mes grands-mères. Je pense que les femmes qui ont donné naissance à mes parents ont eu une grande influence sur moi. D'une part parce que c'était des femmes extraordinaires qui étaient à la fois guérisseuses, sages-femmes, accompagnatrices et qui m'ont donné beaucoup d'amour. Et je pense que cette arme-là est déjà la plus grande et la plus redoutable, l'amour des grands-mères, ou en tout cas l'amour des siens, et mes parents aussi. Et professionnellement, évidemment, les personnes qui m'ont invitée à travailler avec eux en tant que chanteuse ou danseuse, j'en nommerai quelques-uns comme François Véret ou Robin Orlin, Rachidou Ramdan, Alain Buffard, Alain Maillé. C'est des personnes qui m'ont totalement apporté tellement de richesse et de d'envergure et de force pour continuer à expérimenter moi-même ce que j'avais à raconter. Et je pense que la nécessité que j'ai eue après de créer mes propres projets est née de la confiance que j'ai eue donc par rapport à ces personnes-là qui m'ont précédée, mais aussi la confiance que mes pères ont en moi, notamment mes collaboratrices sur Maï. C'est une façon de leur donner à mon tour quelque chose qui m'a été légué. Et évidemment, ma Germaine Aconi aussi fait partie des personnes qui m'influencent, qui nous ont influencés, qui influencent notre génération. Et c'est une façon aussi de continuer à œuvrer afin que cet héritage-là ne se meurt pas, mais continue, et qu'on soit ancré dans le présent, tout en étant très consciente de ce qui nous a précédé et ce vers quoi on tend, et d'oser d'y arriver, en tout cas d'y donner de la force. Et puis aussi, comme ma Germaine Aconi dit, je pense que mon époux y est pour quelque chose aussi. Nicolas, qui m'encourage évidemment et qui m'accepte dans toutes mes capacités et mes tourments. Et je pense que l'entourage familial aussi, ou amical, donne la foi en la vie. Je pense que c'est ça aussi qui est important, de croire, d'y croire, d'oser y croire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous pousseraient au désespoir aujourd'hui. Et pour moi, dans le monde de la création, je pense que je continue à me tourner vers un nombre de figures, et notamment, voilà, j'allais oublier quand même Nina Simone, une femme que j'aime beaucoup, vraiment, énormément, profondément, et qui aujourd'hui encore, je ne peux pas passer une journée sans avoir écouté une ou deux chansons, voire un album entier de cette femme extraordinaire.
Germaine Aconi, il y a plusieurs personnes qui vous ont fait confiance, à vous aussi, quand vous étiez plus jeunes. Dans le documentaire Yatunde qui a été projeté avec, au Théâtre de la Ville, vous racontez, il y a eu plusieurs écoles de danse. On a parlé de l'école des Sables à Toubab Diallo, donc à près du nord de Dakar, que vous avez créée en 2004. Mais en 68 déjà, vous aviez 24 ans et vous avez créé votre premier studio de danse. Et puis dans les années 70, vous écrivez au poète, écrivain, président Senghor pour lui dire qu'il fallait qu'il prenne conscience que la danse c'était important et qu'il fallait y faire une place. Et il vous a écouté.
Oui. Alors je voudrais rendre hommage à une femme extraordinaire, Mademoiselle Marguerite Lamothe, où j'ai fait mes études de danse et de sport à l'école Simon Sugel dans le 16e. C'est une petite bonne femme dynamique qui m'a appris la discipline et quelques années après, j'ai passé 3 ans dans cette école et quelques années après, quand je l'ai revue, elle m'a dit, mais Germaine, vous êtes noire? Je dis, mais oui, mademoiselle, je suis la seule noire. Elle ne s'était même pas aperçue que j'étais noire. J'ai tellement appris d'elle et je la remercie aujourd'hui. C'est dommage, elle est plus là, mais je lui rends cet hommage parce que grâce à elle, c'était mes premiers pas de danse classique, de danse moderne, de rythmique, que voilà, elle m'a apporté aussi cette discipline-là. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'être là, de parler de tout cela et de tout ce que c'est vraiment un échange, hein. On dit j'apporte quelque chose, mais l'autre, c'est le donner et le recevoir du président Senghor et c'est le partage. Et donc, je suis très heureux de tout ce que, dans mon parcours, que ce soit Maurice Béjart, le président Senghor et tout ce qui m'ont apporté quelque chose où je dis, j'ai toujours dit qu'à travers le miroir de leurs yeux, de Maurice et de Béjart, j'ai retrouvé mes racines. Et voilà, je suis aussi ce que je suis aujourd'hui et j'en suis très fière.
On va écouter avant de poursuivre la voix de Léopold Sédar Senghor. C'est en 1956 et il y parle de rythme, de mouvement, de parole.
Sur le plan du rythme, je vais finir par là parce que je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Sur le plan du rythme, la musique est liée à la parole et à la danse, sûrement plus au poème qu'à la danse. Pour le nègre africain, c'est l'élément qui caractérise le mieux le poème, c'est-à-dire la musique. Dans les langues du Sénégal, le même mot, Woy en Wolof, Kim en Serer, Yimre en Peul, désigne le chant et le poème par excellence, l'ode. Ainsi, un poème n'est accompli, n'est vraiment rythmé que s'il est chanté. En ce qui concerne les sculptures négro-africaines, ces sculptures sont rythmées. C'est ce qui fait leur beauté. Ainsi, dans telle statue féminine du Baoulé, vous voyez deux thèmes de douceur qui chantent un chant alterné. Il y a les fruits mûrs des seins, mais le menton et les genoux, la coupe et les mollets y sont également des fruits ou des seins. Par contre, le cou, les bras, les cuisses sont des colonnes de miel noir. Vous trouvez tout le temps cette opposition. Et c'est ce rythme, justement, qui crée l'objet.
Germaine Aconi, c'est Senghor et Maurice Béjart qui vous avaient donné la direction de l'école Moudra Afrique.
Oui.
Et que vous avez convaincu donc que c'était important de faire une place à la danse et de créer des espaces.
C'est ça. Donc c'était la première école panafricaine de formation pour les danseurs africains. Et c'était bien pour moi de diriger cette école et donner cette vision. Et c'était quand j'ai rencontré Maurice, je le regardais et je disais, mais je suis un peu gonflée quand même, j'ai l'impression que je lui ressemble. Et je n'arrivais pas à lui dire vous. Et il m'a dit, mais tu étais ma fille dans un autre monde et tu es la fille noire que j'aurais pu avoir si j'avais eu des enfants.
Et je vais citer.
Donc c'était une très belle rencontre.
Je vais citer Maurice Béjart, que vous-même vous citez dans le documentaire. Créer une école Moudra en Afrique était pour moi à la fois une entreprise qui faisait bondir mon cœur d'enthousiasme, mais aussi une interrogation cruelle. Comment et surtout pourquoi apporter ma contribution de danseur à un continent dont je recevais d'évidence de la supériorité ? Que la tradition soit ce torrent impétueux qui se précipite dans le monde moderne pour le bouleverser et non un lac d'eau dormante. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture en direct. Nous sommes exactement entre le Sénégal et le Rwanda, et Paris et Séville, et mille autres territoires qui tissent leurs histoires, avec Germaine Aconi et bientôt Dorothée Munyaneza et Yinka Essie-Grace. La chanteuse Alani vient de sortir un EP avec des chants de Noël. Christmas volume 1, elle nous en offre un enregistré spécialement pour nous ce soir, avant de poursuivre la discussion.
Je suis Alani, vous écoutez Tous en scène avec Aurélie Charon sur France Culture. Joyeux Noël à tous.
Merci à Alani pour ce morceau, et comme chaque semaine depuis le début de l'année, dans Tous en scène, on prend des nouvelles des gens de théâtre un peu partout dans le monde. Ce soir, nous sommes à Los Angeles avec John Malpighi et Henriette Bowers, qui travaillent dans le quartier défavorisé de Skid Row avec des sans-abri. John nous a envoyé un message et c'est Henriette qui a traduit en français.
So hi, this is John Malpighi and Henriette Bowers reporting on a theater as it's going in Los Angeles.
Bonjour Aurélie, c'est Henriette ici. Nous faisons le théâtre à Los Angeles. C'est un groupe qui John a commencé il y a 35 ans maintenant dans Skid Row. Et Skid Row, c'est dans le centre de Los Angeles. Et c'est un quartier très, très, très extrêmement pauvre. Il y a beaucoup de gens sans abri. C'est le seul quartier vraiment où, les gens, où, il y a, où c'est possible de vivre et de louer une chambre qui n'est pas trop chère, quoi. Il y a une lutte contre le déplacement tout le temps parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner si, par déplacer la communauté et construire des grands immeubles et tout ça. Ce qu'on a fait cette année avec le COVID. On ne pouvait pas faire des répétitions ensemble. Et alors, on a fait des répétitions sur Zoom. Mais ça, ce n'était pas évident parce que tous les gens ne savaient pas Internet. Il n'y a pas d'Internet en Skid Row. Et tous les autres cafés, like Starbucks, étaient fermés. Et au début, les gens ont amené leur téléphone dans les rues en face de Starbucks pour nous joindre dans le Zoom. Et ma fille, maman, nous avons une campagne et nous a acheté des hotspots pour les connecter sur ligne et aussi des tablets et des téléphones. Non? Et maintenant, tout le monde est sur le Zoom, est en ligne. Maintenant, on est en train de répéter pour une performance qui va se passer l'année prochaine, en mars. Nous espérons. On va le faire dans un parking dehors. On va faire beaucoup de l'espace entre les acteurs dans un grand cercle. Et au milieu de ce cercle, il y a des caméras qui vont projeter ce qu'ils font sur un mur. Le public qui est séparé aussi avec beaucoup d'espace et ils peuvent suivre le spectacle sur le mur, non? Ça, c'est le plan. Parce que tous les théâtres en ce moment sont fermés ici à Los Angeles. Et on ne sait pas quand on peut ouvrir encore. Mais cette année, on a dû faire deux grands projets qui se passent normalement dans la rue et dans les parcs de Los Angeles parce que c'est une parade qui s'appelle Walk the Talk et c'est l'histoire des gens qui vivent à Skid Row et avec une fanfare, une grande troupe de musique. On l'a fait en ligne. Et alors, ça, c'est le rapport de Los Angeles, et je pense que je fais un très mauvais job. Je ne sais pas si ça tu peux utiliser. Peut-être tu peux. Alors, bonne journée. Au revoir. Ciao.
Dorothée Mugnaneza, même si la pièce au Festival d'automne a été reportée au printemps puisque ça n'a pas pu être joué en novembre-décembre, la pièce Maille. J'imagine que c'était important cette année pour vous de répéter et de la créer, cette pièce, d'accomplir tout ensemble ce spectacle.
Oui, c'était très important parce qu'il y a eu la question, on s'est posé la question de créer la pièce plutôt l'année prochaine. Mais cela faisait déjà quelques années que cette envie m'habitait et les obstacles qu'on a pu rencontrer avec le confinement, le premier confinement, ont fait qu'une partie de l'équipe aussi n'a pas pu nous joindre, notamment Zora Santos qui nous venait du Brésil et Kiera Collins qui nous arrivait de Chicago.
Puisque dans le spectacle, pardon, il y a des femmes qui viennent justement de différents endroits dans le monde.
Absolument. Et finalement, j'ai quand même décidé qu'on allait poursuivre l'aventure. Et j'ai été très contente de pouvoir réunir donc les quatre autres personnes, Ifede, Nido Uwera, Elsa Mulder, Asma Jama et Yinka Issy Graves. Et parce que pour moi, c'était l'année où ce spectacle devait voir le jour, malgré tout. Et je suis très contente d'être arrivée au bout. Parce que ça n'a pas été le cas de tout le monde, de tous les artistes qui voulaient aller au bout de leurs aventures. Et aujourd'hui, je suis quand même très heureuse d'avoir pu le créer au mois d'octobre et qu'il puisse exister. Et j'ai confiance qu'il vivra longtemps et touchera encore plus de monde qu'il n'a pu le faire jusqu'à présent.
On va poursuivre la discussion en écoutant la voix de la chorégraphe Régine Chopineau, c'était en 2003.
La danse est l'art le plus fantastique qu'il existe. C'est l'art à la fois le plus archaïque et le plus avant-gardiste. C'est lui qui porte tout le futur du monde, à tous les niveaux. Le corps nous sauvera. Et même si aujourd'hui on le clone, même si aujourd'hui on le met sous perfusion pour garder nos vieillards en vie, sans aucun souci du respect humain. On est dans une aberration et en même temps, c'est dans cette aberration qu'il y a le chemin le plus pertinent, le plus intelligent.
Dorothée Mounianeza, j'avais l'impression que c'était une bonne introduction pour parler de Maï, de dire le corps nous sauvera et de penser que dans la danse, il y a sûrement tout le futur du monde qui s'y trouve.
Oui, il y a le futur, il y a le présent et le passé qui s'y trouve, je pense. Parce que c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie, c'est le rythme. Et rassembler toutes ces femmes qui sont évidemment de différentes disciplines, était important pour moi de pouvoir leur donner l'espace, en tout cas de créer cet espace dans lequel on pouvait se mouvoir avec liberté, avec force, avec beauté et fragilité aussi. Et l'envie, ou en tout cas la possibilité de pouvoir tisser ensemble nos histoires, raconter nos parcours, raconter cette dispersion justement de par le monde qui est le nôtre, qui est la nôtre, était une façon de dire voilà, nous sommes en vie, nous respirons encore, nous bougeons encore, et c'était une façon de célébrer, de nous célébrer, de les célébrer. Parce que le mouvement pour moi c'est la vie, oui.
Maï, Dorothée Mounianeza, c'est un spectacle donc choral avec des femmes artistes, poètes, danseuses, africaines ou afrodescendantes que vous avez rencontrées au cours de vos voyages, des tournées, et qui font corps, là, ensemble, dans ce spectacle, qui s'expriment avec leur corps, avec des mots, parfois. Il y a aussi du récit, du poème. Yinka Yessi-Graves, vous faites partie, vous êtes une de ces femmes sur scène. Qu'est-ce qui vous relie, toutes, selon vous? Yinka, est-ce que vous êtes toujours avec nous depuis Séville?
Oui. Est-ce que vous m'écoutez?
Oui, on vous entend bien.
Vous m'écoutez?
Oui.
D'accord, super. Non, je suis là. Je suis très attente. J'écoute bien.
Qu'est-ce que vous diriez vous relie avec les autres femmes du spectacle?
Oui, je pense qu'on peut peut-être revenir au corps, dans le sens qu'à travers de nos corps, on a toutes vécu beaucoup de vivances différentes, mais qui en même temps nous ramènent. Je pense que aussi le fait qu'on a pu faire ce spectacle ensemble dans ce moment tellement précis, pas seulement du Covid, mais aussi à penser un peu tout ce qui s'est passé avec Black Lives Matter. Je pense que ça nous a tous rappelé de beaucoup d'expériences comme femmes noires, de nos différentes vies, disons, ou de nos histoires dès le continent africain, mais même dans la diaspora. Et donc je sens que le moment, non seulement nos histoires, mais même le moment qu'on a pu prendre ensemble de nous réécouter, de nous rappeler, aussi d'avoir l'espace de reprendre beaucoup de ces choses qui parfois nous ont causé beaucoup de douleur aussi. Je pense que toutes ces choses-là, en fait, nos expériences sont ce qui nous ont ramenés ensemble dans un sens. Et qui nous ont sauvés exactement, quoi. Le corps nous sauvera. Je pense que avec Maï, Dorothée nous a donné l'opportunité de revivre et aussi de célébrer ces choses, disons, de transformer peut-être ces expériences dans quelque chose qui peuvent nous donner de la vie, quoi.
Yinka Yessi-Graves, vous êtes donc à Séville. Je crois que vous avez grandi en Angleterre, ou en tout cas vous avez vécu dans plusieurs pays. Et je crois que quand vous aviez 8 oui. ans, on vous a demandé si vous vouliez devenir danseuse et vous ne vouliez pas dire oui à l'époque. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêchait de le dire?
Je pense que disons que juste, même maintenant, parfois, je trouve ça difficile d'accepter. Peut-être je sens que je suis plutôt une chercheuse. Quand j'entends le mot danseuse, j'imagine toujours une espèce de carrière qui a été marquée depuis que tu étais très petite. Et je sens que peut-être ce qui me ramène à la danse, c'était peut-être tellement pas la technique, mais plutôt une envie de rentrer dans des histoires ou ce que je découvre maintenant dans des histoires qui n'ont pas été racontées. Donc peut-être c'est plutôt parce que dans le mot danseuse, ce qui me fait danser, je voyais pas toujours que c'était reflété dans ce mot, disons. Aussi, parfois, on me demande avec le mot bailaora, parce que bien sûr, je suis une danseuse de flamenco aussi, je travaille avec le flamenco. C'est aussi un mot qui a beaucoup de charge, et bien sûr, il y a toute une esthétique autour de ce qu'on a l'habitude de voir dans une bailaora. Donc, je sens que parfois, ou je sens que peut-être je suis toujours à la recherche du mot qui va définir un peu ce que je fais avec mon corps, disons. Mais je pense aussi, quand j'étais petite, j'avais peut-être un peu de préjuicio. Je me jugeais moi-même et peut-être je n'acceptais pas aussi que c'était une façon digne de vivre. Ça a toujours été une bataille, disons que. Je suis allée au lycée français Charles de Gaulle, c'est là que j'ai connu Dorothée, au fait, on est allé au même lycée. Et puis, je pense qu'il y avait dans cette éducation qui n'acceptait pas la danse comme quelque chose de fallible aussi. Donc, je pense que j'ai toujours bagarré avec l'acceptation de ce que mon corps il voulait faire et cette espèce de préjugement, peut-être, je ne sais pas d'où il venait, que c'était pas digne de le faire, disons.
Dorothée Mugnanesa, dans le spectacle Maï, il y a cette phrase « je viens de loin ». Ça veut dire quoi, « je viens de loin » de la part de ces femmes-là?
C'est une phrase que je le dis en Kinyarwanda, « Natulutse Kure ». Et ce n'est pas juste une question liée à la géographie, c'est-à-dire à un territoire, simplement un pays, mais c'est de dire qu'on porte... une histoire lointaine, une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas d'hier, mais qui est vraiment plus lointaine encore. C'est-à-dire que pour moi, c'est le récit, un récit qu'on n'entend pas ou peu et que j'essaie de ramener à un présent, à sur scène, à ce moment-là, en disant ce qui me compose ne date pas d'aujourd'hui. Parce que souvent, on a tendance à sous-estimer, en tant qu'Africain ou afro-descendant, l'héritage même qu'on porte. Mais quand on se rappelle qu'on est des êtres qui portons des histoires tellement profondes et tellement lointaines, aussi bien chronologiquement parlant, mais aussi géographiquement parlant, ça nous donne de la force dans un présent précis. Et pour moi, évidemment, il s'agit du Rwanda, mais au même moment, il y a Nido Uwera qui est en train de danser et qui, elle, est née en exil au Burundi. Elle est de parents rwandais, mais elle est née en exil au Burundi. Et c'était une façon de aussi parler de cet exil-là, de parler de ce déplacement-là géographique qui lui a été imposé, qui a été imposé à sa famille, mais d'honorer cette traversée, de penser à ce mouvement-là, à cette espèce de une traversée, quoi, une question de dire j'étais ici et me voilà maintenant là, et qu'on est en mouvement perpétuel. Et donc pour moi, il s'agit de tous ces êtres arrachés, en rupture, ou tout simplement en mouvement, voulu ou non.
Et votre premier spectacle, Samedi détente, Dorothée Mugnanesa, cette parole autobiographique était présente, puisque c'était justement votre histoire, le Rwanda, la fuite pendant le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Pourquoi là, vous avez eu besoin peut-être de d'autres récits, d'autres corps, d'autres femmes pour porter quelque chose tout ensemble de commun?
Eh bien, effectivement, oui, j'ai commencé avec une histoire autobiographique et la deuxième pièce, Unwanted, j'ai ouvert mon récit, en tout cas mon histoire liée à mon pays, au Rwanda, aux voix d'autres femmes du Rwanda, mais aussi d'autres femmes des pays limitrophes, le Congo ou d'autres pays d'Afrique, mais aussi du Moyen-Orient. Je parle aussi des femmes de la Syrie, par exemple, quand j'aborde la question du viol comme arme de guerre perpétrée contre les corps des femmes ou des enfants. Et Maï, pour moi, est une façon de tricoter, si je puisse prendre un mot qu'a utilisé Stéphanie Couder, avec qui je travaille sur les costumes et la scénographie. C'est une façon de tricoter un récit à plusieurs, de ne plus être la seule personne qui porte une seule histoire, parce que je suis habitée par plusieurs récits. Et toutes ces femmes, pour moi, sont un déploiement de récits multiples que j'ai envie de partager. Et je ne pouvais pas le faire seule. Je ne peux pas parler le créole. Je ne peux pas parler le néerlandais. Je ne peux pas parler le somali. Et donc, c'était une façon de multiplier, de créer cette symphonie, ou de créer cette multitude de voix et de corps. Parce qu'en étant plusieurs, on devient politique, on devient plus visible, plus entendu. Et donc oui, c'était une façon, je pense pas naturelle, mais en tout cas, c'est la progression qui me semble la plus juste aujourd'hui.
Yinka Essie-Graves, dans Mai, je crois que c'est vous qui portez cette parole, ce poème qui dit « Je suis tissée avec un fil incertain, j'envie ceux qui pensent appartenir à un sol en particulier, je me sens orpheline de terre ». J'ai donc appris à me tenir droite et grande malgré les va-et-vient, malgré les sols mouvants. Qu'est-ce que, pour vous, elles sont où les racines et le territoire et le sol finalement où vous vous sentez chez vous? Est-ce que c'est celui de la danse? Je disais au début de l'émission que l'identité de Germaine Acogny, c'était la danse, je crois qu'elle a dit ça. Quels sont finalement vos fils et vos racines?
Oui, donc c'est un long voyage en comprenant que précisément peut-être c'est la rencontre de tout ça dans mon corps même. Parce que oui, je suis anglaise, disons, je suis née en Angleterre. Très petite, nous sommes partis au Nicaragua. Ensuite, on a vécu en Guadeloupe, on est reparti en Angleterre. Et maintenant, ça fait près de 12 ans depuis que je suis en Espagne, disons ma base, mais je retourne beaucoup, beaucoup en Angleterre. Cette année, c'est la première fois que je suis pas là à cause du Covid, mais disons que j'y retourne beaucoup. Mais c'est clair que cette chose que je vois dans les gens qui sentent qu'ils appartiennent à un endroit particulier ou une langue particulière, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais senti, quoi. Donc, je pense que oui, je dis toujours merci à mon corps, au fait, pour m'aider à faire ce voyage où je sens que je suis toujours au plein milieu, disons. Je pense pas que je suis arrivée quelque part encore, mais c'est plutôt que c'est grâce à cette curiosité que je sens vraiment est née de cette envie. Et je parle toujours du corps au lieu de ma tête, parce que c'est, par exemple, j'ai vécu au Cuba aussi, et puis tout d'un coup, je vois que mon corps, il se met dans un cours de danse d'afro-cubain. Et c'est au fait, grâce à ça que j'ouvre toute une connaissance d'histoire qui aussi me ramène à mes racines africaines, disons. Ma mère, elle vient du Ghana, mais elle est partie en Angleterre quand elle avait 2 ans. Mon père, il est d'origine jamaïcaine, mais né en Angleterre. Et donc, disons que cette notion de nos origines, elles sont là, mais en même temps, je sens qu'elles sont loin dans ma vie quotidienne. Mais c'est grâce à mon corps, les voyages que j'ai faits avec mes corps, que j'ai pu toucher des sensations, des valeurs, je dirais, des valeurs qui me permettent de faire partie des histoires qui sont pas nécessairement connectées au sol où j'habite, dans un sens, mais qui quand même m'aident à comprendre qui je suis et comment je peux me connecter dans les différents espaces.
Germaine Acogny.
Par exemple, avec le flamenco.
Pardon.
Non, j'allais juste dire qu'avec le flamenco, ça a été vraiment un voyage incroyable qui me permet, donc disons que cette chose qui apparemment n'a rien à voir avec une fille anglaise, noire en plus, mais je découvre, ça m'aide à découvrir, et puis ma descente à Séville, par exemple, au sud de l'Espagne, de vraiment comprendre qu'il y a une présence importante africaine ici, qui a eu des influences avant. On parlait du rythme, l'importance du rythme. Il y a beaucoup de rythmes africains, même pendant qu'on faisait Mai, Dorothée l'a mis une chanson rwandaise, et je pouvais pas le croire parce que c'était vraiment une bouleria, c'était un rythme de 3/4. Et disons que, je sais pas, c'est comme s'il y a un savoir dans ce corps qui est au fait en train de relier toutes ces histoires, oui.
Germaine Acogny, à quel sol vous vous sentez appartenir aujourd'hui?
ben, Moi, je me sens enracinée à l'école des sables, à Toubab Jalao, que Elmout et moi, nous avons créé. C'est vraiment un village de la danse. Et je trouvais que c'était vraiment important que le Nord et le Sud soient ensemble, l'Europe, l'Afrique. Et quand il y a le respect de la culture des uns des autres, moi, j'ai pas envie qu'Elmout soit noir ou sénégalais. Et lui n'a pas envie que moi, je suis allemande. On est resté chacun dans sa... dans sa nature, et on s'est rencontrés, nous avons créé l'École des Sables, qui reçoit le monde entier, d'abord les Africains, puis le monde entier. Donc moi, je me sens bien enracinée à Toubab Jalao, dans la nature, et reliée, parce que le symbole de ma technique, c'est le capoquier, c'est l'arbre. Vous pouvez imaginer l'arbre le plus grand, enraciné, et moi, je trouve que cette racine qui part dans le sol, à travers le monde, partout, va partout, il n'y a pas de frontière. Et l'arbre qui s'élance vers le ciel pour prendre des influences d'ailleurs, mais tout en restant soi. C'est-à-dire qu'on peut prendre des influences d'ailleurs. Moi, j'adore manger. J'adore manger chinois, japonais, allemand, sénégalais. Mais je mange tout ça, mais ça revient moi et je reste Germaine Akogni. Et bon, et voilà, c'est ça. Bien manger, bien boire, être bien. Et je souhaite que chacun dans la vie puisse avoir les moyens de bien manger, de bien se soigner et d'être heureux. Ça, tous les matins, je le souhaite pour que le monde aille mieux.
Je crois qu'il y en a un qui rêve d'aller à l'École des Sables. On a appelé beaucoup d'artistes donc un peu partout dans le monde depuis le début de l'année, dont Yannick Kamanzi, qui est un jeune danseur à Kigali et qui a tenu à vous laisser un message pour témoigner de la façon dont votre travail rayonne chez lui.
My name is Yannick, je m'appelle Yannick, je viens de Kigali, Rwanda, et je suis danseur. Je fais la danse traditionnelle, la danse contemporaine, et j'ai appris la danse contemporaine de Wesley Ruzibiza, qui a été à l'École des Sables, qui du coup nous a un peu parlé de la technique Akogni et de Maman Akogni, et c'est vraiment un privilège qu'aujourd'hui je puisse vous parler d'ici, de Kigali, du Rwanda. Et tout ce que je peux dire, c'est merci, merci d'avoir fait tout ce que vous avez fait. Et your legacy continues to impact us. C'est à cause de ça que les personnes comme nous apprennent à danser. Et c'est la danse qui nous aide à s'ouvrir et guérir différentes blessures, des traumas et tout. Et merci, merci de nous avoir appris tout ça et merci d'avoir existé. On vous aime. With love from Kigali. Mouah, mouah, mouah.
On finit avec des embrassades, Germaine Akogni. Merci à toutes les trois. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, à la technique ce soir. Merci à Baptiste Lénard. Ne manquez pas demain à 16h dans le Rayon BD, à l'occasion de la saison Africa 2020, une émission dédiée à la bande dessinée africaine. On finira avec les mots de Yinka Essie-Graves dans le spectacle Maï. Je vogue, je navigue, je suis sur l'eau, j'apprends à m'enraciner mais je n'ai pas encore trouvé le sol. Comment fait-on pousser des racines sur l'eau ?